Bonjour et bienvenue, ici Émilie Lagouette du blog Éveillé Nature. Aujourd'hui, malgré ma voix un peu rauque de ce début d'automne, je vous invite à écouter ce podcast que j'ai intitulé « Ils vont à l'école dans la nature, qu'apprennent-ils ?» Et oui, pendant que leurs camarades récitent l'alphabet bien au chaud dans leur salle de classe, eh bien, eux construisent des cabanes, observent une chenille ou font de la musique avec des bouts de bois. Leurs enseignantes ont fait le choix chaque semaine de faire classe dans la nature. Alors que font-ils? Qu'apprennent-ils? Et qu'est-ce que ça leur apporte en plus à ces enfants d'être à l'école dans la nature? Eh bien, pour répondre à ces questions, je vous invite à découvrir deux écoles qui pratiquent l'éducation par la nature, l'une en Belgique et l'autre en France. La première école est l'école libre de Saint-Vaast, en Belgique. Les enseignantes, Anne Dubray et Marie-Laurence Jadot, font classe trois matinées par semaine dans les bois, à leurs 25 élèves de maternelle. La seconde école est en France, dans le Poitou-Charentes. La maîtresse, c'est Christelle Ferjou, et elle emmène ses élèves âgés de 2 à 5 ans, une matinée par semaine, dans un vaste jardin qui est situé à proximité de l'école. Alors maintenant, transformons-nous en une petite souris pour voir d'un peu plus près ce qu'il s'y passe dans cette école des bois et dans cette école du jardin. Voyons une matinée à l'école de la nature. 9h, à l'école des bois comme à l'école du jardin, les enfants se préparent puis se mettent en route pour leur coin de nature. 9h30, le matériel est installé, les enfants se regroupent alors en cercle pour un rituel matinal. À l'école du jardin, les petits s'assoient sur une toile imperméable. À l'école des bois, c'est dans un canapé forestier qu'ils s'installent. 10h, tout le monde est en activité. Transporter des cailloux, scier des bâtons, observer une limace, escalader le talus. En général, les enfants choisissent librement leur activité, au gré de leurs envies, de leur imagination et de leur découverte, mais aussi pour faire comme les copains, avec eux. Et l'adulte est là pour veiller à la sécurité, pour accompagner, rassurer, impulser quand cela est nécessaire, mais jamais pour imposer. Déjà 11h15, rituel de fin de matinée, les enfants se rassemblent de nouveau. C'est le moment où chacun explique aux autres quel a été son moment préféré. On chante, on range le matériel, puis la troupe reprend le chemin du retour. 12h, retour à l'école après 3 heures passées au grand air, dans les bois ou dans le jardin. La tête, la main et le cœur sont rassasiés. C'est au tour du ventre maintenant. Voyons maintenant concrètement ce qu'apprennent ces enfants. Et là, par où commencer? Alors prenons par exemple les programmes scolaires. On y trouve 5 domaines d'apprentissage. Et voyons s'ils sont tous travaillés quand on est en forêt ou au jardin. Commençons par le premier domaine, celui du langage. Côté langage oral. Alors, dans cette école de la nature, on va parler pour dire ce que l'on veut faire ou pour raconter ce que l'on a fait. Précisément pour se faire comprendre, on va désigner précisément un objet ou un élément naturel, écouter quand on veut en savoir plus, réfléchir avec les autres, construire une action à plusieurs, en interaction, donner son avis, etc., etc. Voyons maintenant du côté du langage écrit. Eh bien, par exemple, on va écouter l'histoire que la maîtresse nous lit, on va feuilleter des albums illustrés en étant allongé sur la toile, vous savez, cette toile en plastique qui a justement été installée tout à l'heure. On va demander à un adulte de chercher une information dans un guide naturaliste. Et puis on va s'amuser, par exemple, à laisser des traces avec un outil, à tracer des signes ou des lettres avec un bâton. Et puis, sans parler des activités faites en classe, en amont ou en aval, ça peut être des discussions, des comptes rendus, des listes, un imagier, des dessins légendés, etc., etc. Oui, c'est bon, donc le langage est bien central dans ces matinées nature. Voyons maintenant le deuxième point, celui des activités physiques. Alors quand on est dehors, eh bien c'est l'endroit idéal pour fournir un effort. Et là par exemple, ça va être tirer le caddie avec le bidon d'eau pour accéder au jardin. On va aussi adapter ses équilibres, par exemple en marchant sur un tronc d'arbre. On va s'adapter aux contraintes du terrain, franchir un obstacle, prendre conscience des risques potentiels, courir, sauter, grimper, glisser, tirer, pousser, coopérer, pour porter une branche par exemple, mais aussi pour faire une ronde, pour se rassembler, pour chanter. Et puis on va aussi agir à sa mesure, prendre confiance en soi, apprendre petit à petit à dépasser ses craintes. Voilà, inutile de dresser une liste exhaustive, hein, ça tombe sous le sens. Un milieu naturel, c'est par excellence un lieu dans lequel l'enfant va affiner ses capacités motrices et prendre de l'assurance pour évoluer dans l'espace avec tout son corps en mouvement. Passons au troisième point, celui des activités artistiques. Eh bien, dehors dans la nature, on va pouvoir explorer différents matériaux pour laisser des traces. On va pouvoir manipuler et tester la matière, la modeler, on va pouvoir assembler des éléments naturels pour créer par exemple un personnage, un abri miniature, une invention. On va pouvoir prendre des photos ou faire prendre des photos. Mais on va également pouvoir jouer avec les sons et les bruits. On peut faire sonner les matériaux, on peut imiter les bruits de la nature, soit en tapant, froissant, etc. Ou alors avec sa bouche, avec ses mains. On va siffler avec une tige creuse, écouter le chant des oiseaux, écouter le silence. Et bien sûr, on va éveiller ses cinq sens. On va également apprendre des comptines, des poésies, admirer, rêver, etc. Voilà, passons maintenant au quatrième point, celui qui est structurer sa pensée. Quand on est dehors, on va pouvoir observer et comparer les formes. Je ne sais pas, moi, un enfant, il va observer les formes des feuilles, des tiges, des cailloux, de tout ce qui va lui passer entre les mains et sous les yeux. Il va pouvoir collecter, trier, organiser des petites collections. Et si ça le chante, il va pouvoir s'entraîner à compter. Il va pouvoir comparer des longueurs, des masses. Il va pouvoir les ressentir, hein, en quelque sorte, se les mettre dans les mains, dans le corps. Après, voilà, il va voir un objet, il va avoir l'intuition que ça pèse tel poids. Il va pouvoir transvaser, mais il va petit à petit se construire des repères, son propre répertoire qui lui servira de base ensuite à tous les apprentissages formels. Tiens, d'ailleurs, à ce propos, on lit la phrase suivante dans un des premiers chapitres des nouveaux programmes. Je vous lis cette phrase. Dans tous les cas, les situations inscrites dans un vécu commun sont préférables aux exercices formels proposés sous forme de fiches. J'ai trouvé ça très intéressant, donc je l'ajoute ici. Et donc, on termine par le cinquième point qui est explorer le monde. Voyons si, quand on est dehors dans la nature, on peut explorer le monde. Alors, tout d'abord, évidemment, on va se construire des repères temporels. Par exemple, intégrer le temps passé entre chaque sortie. Hein, si on sort une fois par semaine, par exemple, eh bien, intégrer la régularité, le jour de la semaine, mais aussi ensuite intégrer, par exemple, la durée du trajet. Et puis, petit à petit, utiliser des repères chronologiques, mais qui ont vraiment du sens. Voilà, à dire ce matin, au début, avant, après, etc. Et puis quand on est dehors pendant 3 heures, au moins une fois par semaine, eh ben on va sentir les effets des saisons, de la météo, on va les intégrer. On va également faire l'expérience de l'espace, on va découvrir de nouveaux milieux à proximité de l'école, également mémoriser un trajet. Et puis, bien évidemment, on va se questionner sur ce qui nous entoure, sur le paysage, sur les indices de présence animale, sur les phénomènes naturels directement observés. Rencontrer et connaître des êtres vivants, observer leurs caractéristiques, apprendre à les nommer, développer une attitude responsable à leur égard, rien que ça. Et puis, bah, c'est pas tout, quand on est dehors et si jamais on a des outils à disposition, on va pouvoir transporter et pourquoi pas scier, clouer, nouer, couper, etc. Et du coup, apprendre à connaître les risques et agir en conséquence. Eh bien voilà, nous voilà donc rassurés. Plusieurs fois dans la semaine, la nature peut parfaitement remplacer la salle de classe pour les apprentissages scolaires des enfants. Donc bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, j'ai déjà assez parlé avec ma voix que je vais laisser au repos. Mais d'ici quelques jours, je publierai la suite de cet article et je vous proposerai d'aller encore plus loin et de découvrir que, eh bien, tout cela apporte même bien plus que tout ça aux enfants, nous verrons cela. Voilà, je m'arrête pour le moment, mais je vous invite à prendre la parole si vous le souhaitez, et en tant que parent, à nous dire de quel œil vous voyez cette façon de faire classe en plein air. Est-ce que cela vous inquiète? Est-ce que cela vous attire? Eh bien, dès à présent, la rubrique des commentaires vous est ouverte. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt.